Alors, ce matin, comme vous pouvez le voir avec le titre de mon diaporama, je veux parler de l'espoir. Ce matin, quand j'ai vu la neige, j'avais l'espoir que l'été va être de retour. Désolée pour ceux qui aiment vraiment l'hiver. Moi, j'aime l'hiver seulement du 15 décembre au 1er janvier pour Noël, pour que ça fasse un Noël blanc. Ensuite, ben, ça pourrait être fini tant qu'à moi, mais... Ça ne marche pas comme ça, la vie. Mais il y a de l'espoir. L'été va être de retour. La chaleur va être de retour. Le soleil, quoique le soleil est déjà là. Ce matin, je veux parler de l'espoir. Et quand je sais que je vais apporter un message, ça commence les semaines avant où je suis en train de réfléchir à quel sujet serait pertinent, qu'est-ce qui touche mon cœur, de quoi j'ai parlé avec les gens. Parce que vous savez, le cheminement avec Dieu, c'est comme ça. C'est pas juste on vient à l'église un dimanche matin, mais Dieu est dans notre vie le lundi dans la neige et le dimanche dans la neige. Il est toujours là dans notre vie et il fait partie de notre vie, il fait partie de nos réflexions. En tout cas, il fait partie des miennes, de ma vie et de mes réflexions. Et Dieu, c'est pas une boîte à part, c'est pas un compartiment à part, ça fait partie de toutes nos réflexions, tout notre cheminement, de tout ce qui se passe dans notre vie. Et j'ai entendu une chanson des Cowboys Fringants, je ne sais pas si vous écoutez des groupes québécois. C'est une chanson qui s'appelle « L'Amérique pleure ». C'est triste et c'est à cause de ça que j'ai voulu parler de l'espoir. Et ce matin, je vais vous faire jouer un petit extrait d'une minute de la chanson des Cowboys Fringants. On ne l'écoutera pas toute la chanson. Alors, on peut mettre la musique. J'ai mis des extraits dont je veux parler. Ils sont loin, les cowboys sont pris dans la neige.
Je me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire encore en la vie dans cette hypocrisie? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Moi je traîne dans ma remorque tous les excès de mon époque, la surabondance surgelée, shootée, suremballée, yeah. Pendant que les vœux pieux passent dans le beurre, que notre insouciance est repue, c'est dans le fond des containers que pourront pourrir les surplus. La question je me pose tout le temps, mais que feront nos enfants quand il ne restera rien que des ruines et la faim? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur.
C'est beau. Alors, on peut arrêter là. J'avais envie de pleurer quand j'ai écouté cette chanson-là. Je ne sais pas pourquoi qu'elle a été écrite. J'ai essayé de lire sur pourquoi les Cowboys Fringants ont fait cette chanson-là. Je n'ai pas trouvé de, réponse à mes questions. Mais moi, quand je me suis mis à écouter les paroles de cette chanson-là, je me dis, est-ce qu'on a de l'espoir? Est-ce que j'ai de l'espoir? Puis qu'est-ce que l'espoir fait dans nos vies? Parce qu'en même temps, des fois, quand on regarde les situations autour de nous, on peut se désoler, puis c'est la chanson, c'est « L'Amérique pleure ». Peut-être que vous pleurez ce matin parce que vous êtes désolé de tout ce qui se passe dans votre propre vie, autour de vous, dans le monde entier. Consolez-vous, ce matin, c'est un message d'espoir, c'est pas un message de désolation, mais en même temps, l'espoir, c'est pas être dans le déni non plus, c'est regarder ce qui est autour de nous et malgré tout, avoir de l'espoir. C'est ça, l'espoir. Alors, c'est la question que je me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire encore dans la vie, dans cette hypocrisie? Et ça va revenir. La question que je me pose tout le temps, mais comment font ces pauvres gens pour traverser tout le cours d'une vie sans amour? Alors, il se pose beaucoup de questions dans cette chanson-là et ça m'a amené à me poser des questions aussi. Ce matin, la première question que je pose, c'est quel est votre degré d'espoir? Vous avez le droit de me répondre ou le dire à votre voisin. 100%. Il y a peut-être des jours où ça varie. Et si je vous demandais une autre question à laquelle vous n'êtes pas besoin de me répondre ouvertement et fort, pourquoi vous avez de l'espoir ou pourquoi vous n'avez plus d'espoir? Ou pourquoi votre espoir varie de jour en jour? Sur quoi vous fondez votre espoir? J'ai dit une question, mais je suis en train d'en poser trois. C'est parce que dans mon cerveau, ça roule toujours comme ça, dans ma façon de travailler dans la vie. Quand vous voyez mon ordinateur, je n'ai pas une fenêtre ouverte, j'en ai 50. Puis, je travaille plein de choses en même temps. Alors, quand je vous dis que j'ai une question, attendez-vous à 3-4 questions. Alors, mais ma vraie question, c'est... quel est votre degré d'espoir? Si quelqu'un vous demandait ça ce matin, quel est votre degré d'espoir et pourquoi c'est ça votre degré d'espoir? Pourquoi c'est 100%? Pourquoi c'est 10%? Pourquoi c'est 70%? Pourquoi c'est 30% selon la réponse que vous donnez? Pourquoi votre degré d'espoir est ce qu'il est ce matin? Et le but de mon message, c'est que vous ayez un peu plus d'espoir à la fin de ce message et que vous trouviez qu'est-ce qui peut vous donner de l'espoir. Parce que, dans le fond, c'est ça. Quand je me pose une question, c'est que je veux trouver une réponse. Et je l'ai demandé à Dieu cette question-là. OK, Dieu, qu'est-ce que c'est l'espoir? À part dire j'appelle ça des phrases tout apprises, je sais des choses par cœur, mais ça ne descend pas dans mon... je sais des choses dans ma tête, mais ça ne descend pas dans mon cœur et ça ne s'applique pas dans ma vie de tous les jours. Parce qu'on a beau connaître des choses à propos de Dieu, à propos de la vérité, à propos de l'abîme, si dans notre vie de tous les jours, ça ne change rien, bien, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Alors, je me dis, Dieu, comment je fais pour qu'à chaque jour, mon degré d'espoir soit de 100%? Comment je fais ça? Et un des premiers versets que j'ai choisi ce matin, il se trouve dans Jérémie, « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance ou plein d'espoir. » Alors ça, c'est Dieu qui déclare ça. « Moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur. Ce sont des projets de paix et non de malheur. » Bon, premièrement, quand je lis ça, il y a l'espoir qui monte en moi. OK, toi, le Dieu de l'univers, tu as des projets de paix pour moi, Annie. Toi, le Dieu de l'univers, tu as des projets de paix pour... vous pouvez nommer votre nom. Alors, Dieu a des projets de paix pour chacun et chacune d'entre vous et non des projets de malheur. Que vous soyez d'accord ou pas, c'est lui qui l'a déclaré. Il y a un autre verset... Il y a pour tes descendants une espérance, l'Éternel te le déclare, tes enfants reviendront dans leur pays. Alors, à la question que je me pose tout le temps, mais que feront nos enfants? Alors, il y a de l'espérance pour tes descendants. Peut-être que vous êtes conscient de tout ce qu'on parle à propos du climat. Et le message que parfois on peut véhiculer, c'est qu'il n'y a plus d'espoir pour les générations futures. C'est en partie vrai. Alors, il y a de l'espoir parce qu'on est en Dieu, il y a de l'espoir parce qu'on peut poser des gestes. De toute façon, ce matin, ce n'est pas de ça dont je veux vous parler. Mais on a vu dans les derniers mois avec Greta, qui connaît Greta, je pense qu'on l'a vu, qui est venue nous livrer un message. Selon vous, est-ce que c'est un message d'espoir? Les jeunes? Non? Il y a un certain espoir. Alors, ce matin, on ne parle pas de ça, mais Greta est venue quand même livrer un message, peut-être pour ouvrir nos consciences, pour dire qu'elle veut qu'il y ait quelque chose qui reste pour les enfants qui sont là, qui vont être là aussi. Dans le fond, c'est un peu ça son message, là, très abrégé. Il y a un autre verset que je n'ai pas mis à l'écran, ça dit... C'est le psalmiste qui dit dans le psaume 27, « Que deviendrais-je, si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants? Attends-toi donc à l'Éternel, sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. » Alors, c'est « Qu'est-ce que je deviendrais si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel? » Peut-être que là, mon degré d'espoir, il redescend à zéro. Si je n'ai pas l'impression que Dieu va me faire vivre sa bonté. Si je ne crois pas que Dieu va me faire vivre sa bonté, alors là, mon degré d'espoir peut diminuer. Justement, c'est quoi l'espoir? Dites donc votre définition d'espoir. Je vous pose trop de questions. C'est quoi pour vous l'espoir? Je peux prendre quelques mains. Ici, la confiance que quelque chose de bien va arriver. Oui, très bonne réponse. On va voir cette réponse-là. Autre chose, c'est quoi pour vous l'espoir? Pardon? La foi? C'est quoi pour vous? OK, il y a une partie de foi dans l'espoir, oui. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, derrière Edwige? OK, demeurer dans l'attente que quelque chose de positif va m'arriver. Oui, ça fait partie de l'espoir, ça. C'est une bonne réponse. Marie? Oui, on va. Alors, c'est quelque chose qu'on espère, ça, c'est la foi. On va le voir tantôt en terminant. On va arriver vers là. C'est vers là que je m'en viens. Alors, toutes ces réponses-là, c'est vrai. Il y a un homme qui écrit un livre, c'est un penseur, Léo Barman. Il écrit une trilogie. Il écrit sur l'amour, sur le bonheur et l'espoir. Et il a dit que l'espoir, c'est le moteur de nos actions. C'est le carburant qui fait tourner le moteur. Puis ça va au-delà de l'optimisme, parce qu'avoir de l'optimisme, c'est bon aussi. Et lui, il a dit que l'espoir, c'est l'optimisme avec les manches retroussées. Alors, c'est-à-dire qu'on a tellement d'espoir qu'on se met en branle pour faire quelque chose, qu'on avance. On n'attend pas juste passivement. Parce que c'est vrai que dans l'espoir, il y a l'attente, mais l'attente, c'est plus que l'espoir, c'est plus que attendre assis en faisant pas grand-chose. Et il y a beaucoup de chercheurs, si vous allez lire sur l'optimisme et l'espoir, je suis étonnée de voir tous les travaux qui ont été faits par la psychologie à propos de l'optimisme et l'espoir. Ce matin, je ne vous ferai pas un cours sur l'optimisme et l'espoir, mais c'est un sujet très intéressant qui est très documenté au niveau scientifique. Alors, l'idée de Dieu de nous donner de l'espoir, les humains sont en train de trouver, peut-être pas en train de trouver, mais de mieux expliquer que l'espoir nous fait vivre. L'espoir nous donne de meilleurs résultats. L'espoir nous fait avancer. L'espoir, ça nous fait espérer. L'espoir c'est grand et ça en prend. Parce que ceux qui sont désespérés vont attendre passivement. Il y a quelque chose de mauvais qui va se passer dans leur vie. Alors, l'espoir biblique, l'espoir qu'on trouve dans la Bible, c'est plus que j'espère. Parce que ça a commencé avec ça. Moi, à un moment donné, j'étais sur mon téléphone et je regardais un mot que moi, j'écris souvent, c'est « j'espère ». « J'espère que tu vas bien. » « J'espère que tout est correct pour toi. » « J'espère que tu arrives à l'heure. » « J'espère. » Est-ce qu'il y en a d'autres qui mettent souvent des « j'espère » dans leur message? Oui. Alors, « j'espère », c'est un souhait qu'on fait. On peut dire, il y a comme trois types de souhaits. J'espère que ma mère va arriver bientôt pour aller me reconduire à mon cours. Alors, ça, c'est l'espoir et c'est le désir de quelque chose qui arrive de bon dans le futur. C'est j'espère que ma mère va arriver tôt. Qu'est-ce qui va arriver de bon? Bien, c'est que je n'aurai pas besoin de marcher. Ma mère va être là, va aller me reconduire. J'espère, et là c'est comme un souhait pieux, que tu vas arriver sain et sauf. Alors aujourd'hui, c'est mon souhait. J'espère que vous allez arriver sain et sauf au retour à la maison. Alors ça, l'espoir dans ce cas-ci, c'est la bonne chose dans l'avenir qu'on désire. C'est que tu arrives sain et sauf. On pourrait dire aussi, un bon vent, c'est notre seul espoir d'arriver à temps. Si vous êtes en bateau, alors là, le vent, ça devient la raison pour laquelle on espère. quelque chose qui va se réaliser dans le futur, c'est notre seul espoir, c'est qu'il y ait un vent qui arrive. Ça pourrait être dans ce sens-là qu'on parle de l'espoir. Mais le sens biblique de l'espoir, c'est plus fort que ça. Ces trois utilisations-là, ça peut se trouver dans la Bible. J'espère que vous prospériez à tous égards. J'espère que ton âme prospère. Alors, la formulation « j'espère », on la retrouve aussi dans le contexte biblique. Mais la caractéristique la plus importante dans l'espoir biblique, ce n'est pas présent dans nos usages là, quotidiens du mot « espoir ». En fait, il y a quelque chose qui distingue ce mot « espoir-là ». Alors, je ne veux pas dire que dans la Bible, l'espoir, ça signifie le malheur, qu'on ne veut pas que quelque chose de bon arrive, pas du tout. Je ne veux pas dire que l'espoir, c'est un rejet du bien, c'est pas du tout, c'est le contraire de ça. Habituellement, quand on utilise le mot « espoir », c'est qu'on fait appel à une incertitude. J'espère que tu vas arriver sain et sauf. Alors, j'espère, mais je n'ai pas la ferme assurance dans ma formulation que tu vas arriver sain et sauf. Alors, si je reprends mes phrases de tantôt, j'espère que ma mère va arriver tôt, ça signifie, j'ai aucune certitude que ma mère va rentrer à l'heure, mais je désire vraiment qu'elle le fasse. Okay? Alors, il y a une probabilité qu'elle ne rentre pas à l'heure. La même chose, j'espère que tu vas arriver sain et sauf. Ça veut dire, on ne sait pas s'il va arriver sain et sauf ou non, mais on le souhaite vivement. Puis, un bon vent, c'est notre seul espoir. Bien, un bon vent, ça nous amènera à notre but, mais ça se peut qu'il n'y ait pas de bon vent. Alors, c'est pour ça que je dis qu'il y a une incertitude dans l'espoir. Puis, on dirait que c'est contradictoire, fait que quand on exprime un souhait, un espoir, il y a aussi une incertitude. Mais là encore, ce n'est pas le sens biblique de l'espoir. L'espoir biblique, ce n'est pas seulement un désir de quelque chose de bon dans l'avenir, mais c'est plutôt l'espoir avec une attente confiante et un désir de quelque chose de bon dans l'avenir. Ce n'est pas « je souhaite que ». J'espère que, il y a ça, mais ça veut dire qu'on s'attend à ce que ça arrive. On s'attend que ça se produise, puis il y a une certitude morale. Alors, il y a quelque chose de certain qui est énoncé dans la Bible à propos de Dieu. Une certitude morale versus une certitude logique ou mathématique. Alors, si on est dans la certitude mathématique, 1 plus 1, ça fait 2. Alors, ça, c'est la certitude mathématique, les probabilités. Et on peut être aussi dans ce que vous connaissez, les syllogismes. Tous les humains sont mortels. Paul est un humain, donc Paul va mourir. Alors, c'est un syllogisme, c'est une certitude scientifique. Mais une certitude morale, c'est une certitude qui est fondée sur la volonté humaine, sur le caractère que je connais. Par exemple, je donne un exemple. Les probabilités que je reste mariée à François sont grandes, puisque maintenant, ça fait déjà plusieurs années qu'on est mariés ensemble. Alors, mon souhait, c'est pas juste « j'espère qu'on se divorcera pas », ce qui est bon aussi comme souhait, mais si je dis cette phrase-là, « j'espère qu'on se divorcera pas », ça veut dire qu'il y a une incertitude. Même si la certitude n'est pas là, mais alors, c'est « j'ai foi » que je vais rester mariée à François et ma certitude se base sur la volonté humaine. Alors, on a fait des vœux devant Dieu. Jusqu'à maintenant, on a tenu bon. Ça va faire presque 30 ans qu'on est mariés. Alors, c'est très différent, ce genre d'espoir-là qui est basé sur une volonté et une certitude. Puis, la même chose, alors, je pourrais dire, me basant sur la volonté des humains, ce que j'ai observé jusqu'à maintenant, bien, ça se peut qu'il n'y ait aucun mot mensonger dans une publicité que vous allez voir. Est-ce que vous croyez à cette certitude-là? Non. Ça m'étonnerait. Ça ne veut pas dire que, mathématiquement parlant, ce n'est pas une possibilité que là, tout à coup, la publicité que vous regardez, ça soit seulement de la publicité véridique. Mais pourquoi je dis que ça a peu de chances de se produire? Parce que je fonde ça sur la volonté. Ce que j'ai observé jusqu'à maintenant, c'est que les publicités en mettent plein les yeux, plein la vue. Presque même des fois, on pourrait dire qu'il y a des publicités mensongères. Alors, est-ce que vous comprenez la nuance que je suis en train de faire? Alors, il y a le « j'espère » qui est une certaine forme d'incertitude, mais on s'en va vers l'espoir qui est une certitude fondée sur la volonté humaine. Alors, il y a une certitude, ce que je suis en train de dire, qui vient de la connaissance du caractère d'un homme ou d'une femme. Ce n'est pas infaillible comme certitude, mais c'est quand même une certitude qui est digne de confiance. Alors, si vous êtes marié depuis 30 ans, habituellement, il y a des grosses chances. Vous espérez de tout votre cœur que vous allez rester marié. Ça vous permet d'avoir un espoir de dormir la nuit et de surmonter les moments difficiles. L'espérance de la Bible, ce n'est pas un simple désir de voir quelque chose de bien se produire. C'est une attente confiance et un désir que quelque chose de bon va arriver dans l'avenir. L'espérance de la Bible, ça a une certitude morale parce qu'on connaît celui qui fait les promesses. On l'a vu, ou si on ne le connaît pas, on va commencer à le connaître et c'est de là que va devenir notre espoir, notre certitude, que ce qu'il dit, ça va arriver. Parce que le psalmiste dit « espère en Dieu ». Espérer en Dieu, ça ne veut pas dire se croiser les doigts, comme j'ai mis ma photo. Parce que des fois, on espère, avez-vous fait ça, j'espère que je vais passer mon examen. Alors, c'est un souhait, c'est un espoir, mais on sait justement que les probabilités sont minces parce qu'on a été debout toute la nuit à faire nos niaiseries et on n'a pas vraiment étudié. Alors, ce n'est pas de ce genre d'espoir-là. Là, ça serait un vœu pieux, ça serait « j'espère que je vais réussir mon examen ». Ce n'est pas ce genre d'espoir-là. Alors, on n'est pas là pour se croiser les doigts. C'est ça que je disais, je retourne dans mes notes. Alors, peut-être que le bien qu'on a espéré, ça se définira peut-être pas comme on avait prévu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous avez espéré quelque chose, puis ce n'est pas du tout ça qui est arrivé. Levez votre main, ceux qui s'est déjà arrivé. Plein de gens. Lève les deux mains. Les pieds. Ça s'est arrivé maintes fois que j'ai espéré des choses, puis ce n'est pas tout à fait ça qui est arrivé. Est-ce qu'il est nécessairement sorti du mauvais de cette situation-là? Absolument pas. Mais ce n'est pas le scénario que j'avais imaginé. Alors, ce matin, je vais aller dans lui. C'est arrivé la même chose aux disciples de Jésus. Le même jour, deux de ses disciples, dans Luc 24, j'ai oublié de mettre le 4, c'est dans Luc 24, 13 à 29. Mon 4 s'est enlevé. Le même jour, deux de ses disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Tous ces événements, c'est que Jésus venait de mourir. Pendant qu'ils échangeaient, et il venait de mourir, et là, son corps, on ne le retrouve plus, et on a entendu qu'il est ressuscité, etc. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna, mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant? » Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. Alors, ils étaient déçus. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci? Coudonc, tu vis sur quelle planète? » C'est ça qu'on dirait en bon québécois. « Coudonc, t'es-tu au courant? Qu'est-ce que tu fais là? » Puis même, ça pourrait être pris, des fois, ça, c'est pas la Bible qui dit, mais ça peut être la même chose. Quand on a de l'espoir, les gens pourraient nous dire l'inverse. C'est « coudonc, tu vis sur quelle planète? T'es-tu au courant de l'actualité? » Parce qu'on a de l'espoir, puis on semble aller à contre-courant de ce qu'on voit dans les nouvelles. Mais là, c'est pas le titre, c'est pas le cas ici. « Quoi donc? » leur demanda-t-il. Ce qui est arrivé, l'autre lui répond, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. » Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré, il s'était fait un plan, un scénario, qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, voilà 3 jours que tout cela est arrivé. Et nous, on connaît la fin, parce qu'on a la Bible pour lire le récit. Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Jésus sembla vouloir continuer sa route, mais ils le retinrent avec une vive insistance en disant « Reste donc avec nous, tu vois, le jour baisse et le soir approche, etc. » Je vais mettre l'accent sur « on avait espéré ». Il y a une déception dans le scénario qu'on avait espéré, mais comme dans les disciples, il y a quelque chose de mieux qui va arriver. Ce que vous avez espéré, le beau scénario que vous vous êtes fait, il y a quelque chose de mieux qui va arriver. Comme dans le cas des disciples, ils avaient espéré quelque chose d'autre à propos de Jésus. Puis c'est pas ce qu'ils avaient imaginé du tout. Puis ils étaient déçus. Est-ce qu'on a le droit d'être déçu et attristé? Oui, on a le droit de dire « j'ai de la peine ». On a le droit de dire « ça me fait vraiment mal cette situation-là ». On a le droit de dire ça. Mais l'espoir, c'est que je ne sais pas pourquoi ça arrive, mais quelque chose de bon va sortir de ça. Et c'est ça qui arrive dans le cas des disciples. Ils ont l'air attristés. Jésus lui-même est avec eux. Puis quelque chose de bon, de meilleur, c'est que Jésus est ressuscité. Alors, c'est pas mal meilleur que le plan qu'ils avaient imaginé. Jésus est ressuscité et vient avec eux. Alors, quand on a besoin de l'espoir, c'est souvent quand on est déçu. La réalité n'est pas ce que tu avais imaginé. La réalité n'est pas à la hauteur de tes attentes. Puis c'est pour ça qu'on devient déçu. Ou on peut avoir besoin d'espoir parce que les circonstances sont désolantes. Comme la chanson disait, l'Amérique pleure. La situation à propos du climat. Le monde, on est dans le monde, nous, tout le monde, on a besoin d'espoir en ce moment parce que les tensions sont partout dans le monde. Alors, que vous regardiez partout à l'extérieur du monde internationalement, si vous regardez ici plus près de chez nous, il y a beaucoup de situations qui semblent désolantes. Et souvent, le contraire de l'espoir, ça va être la peur. Alors, on se met à avoir peur et à mettre le focus sur les circonstances désolantes qui sont autour de nous. Et on se met à mettre le focus sur les déceptions de notre vie. Et quand on a peur, ben on ne fait plus rien. On attend, mais on attend passivement. On ne bouge plus. Alors, il y avait une citation que je trouvais intéressante. Mandela a dit « Que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs. » Je pense que Mandela, dans cette situation, il a croupi 27 ans en prison. Il a dû avoir un peu d'espoir dans sa vie. Mais ça a pris 27 ans à se réaliser avant qu'il sorte de prison. Ensuite, il a quand même dit des paroles sages. L'espoir aussi, je retourne en arrière parce que je n'ai pas mis dans le bon ordre. L'espoir, c'est un choix. Et quand vous étudiez les études scientifiques, on dit que l'espoir, c'est un choix et que ça s'apprend. Quand on veut, on peut. Les personnes qui ont de grands espoirs réussissent à réaliser leurs rêves. Puis l'espoir, c'est contagieux. L'espoir, c'est une aptitude qui peut s'acquérir. C'est une bonne nouvelle. Alors, on a toujours le choix à chaque jour. On peut, il y a comme 2 scénarios qu'on peut s'imaginer. Alors, je trouvais ça bien, c'est bien représenté dans Lamentation. « Oh, souviens-toi de mon humiliation et de ma vie errante, du poison, de l'absinthe dont je suis abreuvée. Sans cesse, je m'en souviens et je suis abattue. Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance ou de l'espoir. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien. » Alors, à chaque jour, c'est pour ça que je dis que l'espoir est un choix. Je peux focusser sur ce qui me désole. Ah, ça va mal, il y a eu cette situation-là. Et puis, il y a des choses qui vont mal dans votre vie. Je ne suis pas en train de dire jouer à l'autruche puis ignorer les situations qui vont mal, mais je peux décider de continuer à focusser sur ça. Et ce que ça fait, c'est ça produit en moi quelque chose qui fait en sorte que je continue à dire ça va continuer à aller mal. Il n'y a pas vraiment d'espoir, ça ne changera pas ma situation. Je peux choisir de faire ça ou je peux choisir de dire non, moi, je mets mon espoir en Dieu. Je décide de focusser sur ce qu'il m'a dit. Alors, ses bontés ne sont pas épuisées, elles se renouvellent à chaque matin. C'est une ressource inépuisable. J'ai toujours ce choix-là devant moi à chaque jour. Justement, un message qu'on peut se faire, là, un message qu'on peut se redire à chaque jour, c'est « Mets ton espoir en Dieu ». Si on regarde dans le psaume 42, 6, 42, 12, 43, 5, il est répété trois fois en très, très peu de temps. « Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu! » Alors, là, c'est répété une fois dans le verset 6. Je ne l'ai pas mis à l'écran, mais vous pouvez le regarder. Ensuite, la même chose est répétée au verset 12. Je pense que votre âme n'a pas compris. « Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu. » Et là, c'est répété au chapitre 43, verset 5. « Pourquoi, mon âme, que tu es si abattue? » Puis là, ça dit « Mets ton espoir en Dieu. » Alors, c'est David qui écrit ça. Ça veut dire qu'il y a des jours où on est peut-être désespéré. Peut-être que le mot est trop fort. Peut-être qu'on est abattu, comme votre âme est abattue. Ou on est découragé. Ou qu'on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Et ça va avec notre chant. Dieu veut frayer un chemin. Il veut vous frayer un chemin pour que vous soyez capable de voir la lumière au bout du tunnel. Et c'est facile à faire. Mets ton espoir en Dieu. Mais des fois, on oublie de faire ça. Ça, je vous dis que chaque matin, quand on se lève, on a toujours le choix de rester dans mon esprit abattu, de mettre mon focus sur tout ce qui va mal dans ma propre vie, dans le monde entier et partout, ou de mettre notre espoir en Dieu, parce qu'on sait que les promesses qu'il nous a faites sont vraies. Alors, c'est une certitude. Tantôt, je vous disais qu'on peut avoir une certitude morale à propos d'une personne, mais imaginez-vous à propos de Dieu. Alors, l'espoir en Dieu, ce n'est pas juste espérer en se croisant les doigts, c'est croire fermement que ce qu'il a déclaré, ce qu'il dit, ça va s'accomplir. Et quand on le croit fermement, ça veut dire qu'on est dans l'attente de cette situation-là de bonheur. Par exemple, ça ne veut pas dire que le scénario que vous vous êtes imaginé, c'est celui-là que Dieu a choisi. Mais il y a un scénario de bien. La Bible dit « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Toute chose. Alors, ça se peut que vous soyez dans une situation peu reluisante. Une situation qui, humainement, manque d'espoir. Mais Dieu dit que toute chose concourt à votre bien. Tout! Ça veut dire tout, tout, tout. Si je commence sincèrement à le croire, parce que des fois, on le sait intellectuellement, mais dans notre vie, on commence à se laisser aller dans notre capacité à croire ça. Alors, on se remet, c'est pas grave, on se replante les pieds, mets ton espoir en Dieu. Alors, vous pouvez vous parler à votre âme, c'est un message que vous pouvez vous dire chaque matin. C'est pas un message difficile, mets ton espoir en Dieu. Et vous pouvez dire, bon, dans ma propre vie, chaque jour, ça veut dire quoi ça? Mets ton espoir en Dieu. Est-ce que ça a du sens? J'achève, je regarde qu'est-ce que je veux vous dire d'autre à propos de l'espoir. Alors, est-ce que votre degré d'espoir monte s'il était plus faible ce matin? Qu'est-ce qui donne de l'espoir? Alors, se rappeler les bontés de Dieu. Alors, l'amour. que le Dieu de l'espérance, de l'espoir, vous comble de toute sa joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alors, le Dieu de l'espérance, le Dieu de l'espoir. Comment on peut être rempli de Dieu? Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, avec la pleine assurance que donne la foi. La pleine assurance que donne la foi. Partout où il y a une pleine assurance, il y a la foi. La foi, c'est la pleine assurance de l'espoir. On peut mettre ça de différentes manières. La foi, c'est une attente confiante et un désir de bonnes choses dans l'avenir. La foi, c'est encore plus que ça. C'est aussi la conviction des choses qu'on ne voit pas encore. Et pas juste dans le futur, parce que si vous regardez dans Hébreux 11:3, par la foi, nous comprenons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Alors ça, c'est dans le passé. Bien, dans la foi, on peut croire ça aussi. La foi peut regarder en arrière, vers la création, puis elle peut regarder en avant aussi. La foi, c'est l'idée encore plus large de l'espoir. Mais la foi, ça inclut l'espoir aussi, mais est plus que l'espoir. On pourrait dire que la foi, c'est notre confiance dans la parole de Dieu, dans ce qu'il a déclaré. Puis, on fait référence à l'avenir. On peut appeler notre foi, on peut appeler ça aussi l'espoir. L'espoir, c'est la foi dans l'avenir. Alors, je ne sais pas si vous m'avez compris. Autrement dit, dans la foi, il y a l'espoir. Et la foi aussi, ça veut dire contre tout espoir, parce que c'est comme une coche supérieure. Si on regarde la vie d'Abraham, il était beaucoup trop vieux pour avoir un enfant, lui et sa femme. Mais l'espoir biblique, c'est jamais fondé sur la possibilité humaine ou la possibilité de l'homme. C'est toujours fondé sur la pleine assurance. Alors, la pleine assurance que donne la foi. J'ai la foi que ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Et j'attends cette promesse-là. Ou j'attends le bien, parce que des fois, peut-être que la promesse n'est pas détaillée dans tout son ensemble. Alors, peut-être que le scénario que vous étiez imaginé, ce n'est pas celui-là qui va arriver, mais c'est un scénario de bonheur, de paix. Il y a quelque chose de bien qui va ressortir de cette situation-là. Qu'est-ce qu'on fait quand on est plein d'espoir? Notre énergie et notre enthousiasme sont revivifiés. L'espoir, c'est contagieux. Ça influence positivement les autres. Et je crois que ceux qui ont de l'espoir attirent les autres autour d'eux. Vous, est-ce que vous aimez mieux être avec quelqu'un de déprimant ou avec quelqu'un qui est optimiste? Parce que l'optimiste, c'est bon aussi, qui est optimiste, mais qui a de l'espoir. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas le droit de dire qu'on a de la peine. Loin de moi, j'accueille des gens. Des fois, les gens pleurent quand ils viennent me rencontrer et on a le droit de pleurer. Mais on ne reste pas dans cet état-là. Alors, est-ce que vous êtes des transporteurs d'espoir? Est-ce que les gens à votre contact ont de l'espoir? Parce que vous avez une parole d'encouragement, parce que vous voyez au-delà de leurs circonstances et même que vous pouvez les amener à avoir un espoir en Dieu. Alors, les gens cheminent avec Dieu. Tout le monde n'est pas rendu au même endroit avec Dieu et il n'y a pas de problème. Dieu, ça ne le dérange pas. Mais l'espoir, c'est le but de Dieu, c'est que chacun chemine avec lui et qu'il ait une vie remplie d'espoir. Ici, que le Dieu de l'espérance vous comble de toute sa joie et de sa paix par sa confiance en lui. Alors, quand on est plein d'espoir, je crois qu'on a de la joie, de la paix et que ça déborde autour de nous. Les gens vont vous voir, les gens vous regardent. Vous êtes des transporteurs d'espoir, du moins je l'espère de tout mon cœur, parce que vous collez à Dieu et c'est lui la source de votre espoir. C'est lui le Dieu de l'espérance. Alors, l'espoir est contagieux. Quand on a de l'espoir, on garde en tête la vision des choses meilleures, même quand on traverse des difficultés. C'est vrai, ça a l'air simple, mais quand on est dans un moment de désespoir, des fois, on oublie tous ces principes-là. Les gens sans espoir, on le dit, sont un peu déprimés, sont déprimants. Ils sont concentrés sur les choses négatives. Et quand on n'a pas d'espoir, c'est qu'on ne trouve pas la force de se mettre en branle pour atteindre des objectifs pour travailler. Alors, quand on a de l'espoir, même si c'est difficile, on trouve un moyen de mettre des choses de l'avant. On trouve une motivation. Tantôt, je vous disais, quelqu'un a dit que c'était le moteur, le carburant. Et l'espoir, c'est ce qui nous fait vivre. C'est ce qui fait en sorte, c'est qu'on a une image meilleure, un avenir meilleur qui est dans nos têtes. Et on travaille pour ça. Et ici, à l'Église, il y a beaucoup d'immigrants. Et moi, presque à 100 %, là, je fais une statistique très vite ce matin, ceux à qui j'ai parlé, les immigrants ici, mais les immigrants à qui je parle, c'est presque toujours la même réponse qu'ils me donnent. Pourquoi tu es arrivé au Canada, puis il y a eu des choses difficiles, puis les gens arrivent ici, puis là, leur travail n'est pas reconnu, ils doivent refaire des études? C'est presque toujours la même réponse. Parce que je veux un avenir meilleur pour mes enfants. Est-ce que c'est ça votre raison, souvent? Oui. Alors, il y a l'espoir de quelque chose de meilleur. Ça peut être pour soi, mais ça peut être pour la génération future. Alors, ça fait en sorte que, là, on a un bon exemple, que les immigrants ont traversé beaucoup de difficultés pour parvenir à leur fin et ils sont prêts à vivre avec des difficultés que peut-être nous qui sommes dans notre propre pays, on vivrait pas jusqu'à maintenant, on aurait déjà abandonné. Mais l'espoir de quelque chose de meilleur, ça nous fait avancer. Alors, l'espoir est tout sauf passif. L'espoir, c'est le contraire du déni. L'espoir, c'est complètement l'opposé au sentiment d'impuissance qui nous empêche d'agir. Alors, j'ai pas mal tout dit ce que je voulais dire. Je repose la question, quel est votre degré d'espoir? Et vous pouvez faire des tests, il y a des tests en ligne, il y a un psychologue, Charles Snyder, et ses collègues qui ont conçu un questionnaire de l'espoir. Quel est votre degré d'espoir? Il mesure vos capacités à trouver une motivation et à vous mettre en chemin pour parvenir à atteindre un objectif. Ça se définit aussi comme ça, l'espoir. J'arrête là ce matin, je veux juste remettre. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, avec la pleine assurance que donne la foi. Alors, dans Hébreux 11, 1, ça dit, « Or, la foi, vous pouvez le dire si vous le savez, ce verset-là, est une ferme assurance des choses qu'on espère. » Vous pouvez aller le relire, vous pouvez méditer là-dessus. « Qu'est-ce que j'espère, Dieu? » Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que vous espérez? Quel est votre plus grand espoir ce matin? Je vais inviter le groupe de louanges. On va terminer par un chant d'espoir. Ma prière, c'est que vous ayez un espoir fondé sur Dieu. Alors, il est la source du plus grand espoir. Ma prière, c'est que vous soyez l'espoir pour quelqu'un d'autre aussi. Que vous puissiez mettre en branle cet espoir-là qui est dans chacun de vos cœurs pour propager cet espoir-là. Que vous soyez des gens... Puis l'espoir, c'est être positif, mais c'est plus qu'être positif, mais il y a un côté positif dans l'espoir. Alors, je dis des choses positives, je décide de focusser sur les choses positives. C'est un choix qu'on fait quotidiennement. On peut se lever. On va terminer. Je vais fermer mon écran. Alors, pendant qu'on se prépare, j'ai demandé au groupe de louanges si on pouvait chanter Hosanna. Oui, il y a quelque chose que j'ai oublié de dire, puis ça va avec le chant aussi. La chanson dit « En te voyant, nous retrouvons la soif de vivre ». Et les disciples, j'ai oublié de dire, je lis mes notes pas toujours comme il faut. Les disciples, je ne sais pas si vous avez remarqué, je l'avais mis en rouge, une fois qu'ils l'ont reconnu, ils ont dit « Reste avec nous ». Et ça, c'est un choix. Quand on est conscient que Jésus est là, que Dieu est là dans notre vie, on retrouve la soif de vivre. Mais il est toujours là. C'est ça l'affaire. Mais des fois, on est moins conscient qu'il n'est pas là. Alors, on a juste à se retourner la tête. Ah! T'es là! Oh, mon espoir renaît. Et la chanson? Moi, pour moi, la chanson, c'est ça qu'elle veut dire. En te voyant, nous retrouvons la soif de vivre. Quand nous sommes en ta présence, ben on est toujours en sa présence. Alors, nos craintes fuient. Alors, on devrait toujours être sans crainte, plein d'espoir, parce qu'on est toujours en sa présence. Il est toujours là. Tournez-vous la tête, il est là. Même quand vous ne le sentez pas. Mais si vous êtes conscient à chaque jour, si vous vous approchez du Dieu de l'espérance, vous allez sentir son souffle dans votre cou. Vous allez vous rappeler qu'il est toujours là. J'arrête de parler, je laisse chanter.